Histoire d'une vie. Ce soir, l'histoire de Eugenia B., juive, née en Pologne en 1913. Première partie, sortir du ghetto.
Eugenia, c'est un homme très juif. J'avais aussi un petit nom juif, qui c'était Gitla. Mais mon vrai nom, disons, de passeport, c'est Eugenia. C'est tellement connu entre les juifs que si vous allez à Varsovie, dans les quartiers juifs, vous le trouverez 10 fois au plus encore. Ma mère a eu beaucoup d'enfants, mais comme dans ces temps, beaucoup sont morts. Oui, sont mortes, je ne sais pas. Je suis la dernière.
Et vous, vous êtes née en
1913, février 13. Alors, la première guerre, disons, je connais certaines choses seulement parce qu'on me l'a raconté. À un certain moment, cette partie de Pologne était sous l'occupation russe avant, quand je suis née, n'est-ce pas? Alors, dans la Première Guerre mondiale, les Russes ont brûlé presque toutes les petites villes qui, quand les Allemands arrivaient, ne trouvaient rien, vous comprenez? Et la population, on l'a envoyée vers la Russie, vers la vraie Russie. Ainsi, mes parents et mes frères, nous nous sommes trouvés à Pinsk, c'est-à-dire la première partie de la vraie Russie, que c'est toujours Russie. Ça que je me semble, que je me rappelle, c'est le retour en partie qui était déjà Pologne alors, parce qu'après la guerre mondiale, la Pologne, cette partie qui c'est le milieu de la Pologne, a recouvrer la liberté, disons, l'indépendance. Et c'est devenu la Pologne qui est maintenant aussi. Vous comprenez? Alors, ça, il me semble que je me rappelle, on voyageait pendant 2 mois avec un de ces carrosses, vous voyez en Russie, en Pologne, grande comme ça, 4 roues et un cheval, mais pas couvert. Et moi, que j'étais seulement assise sur cette carrosse, enfouillée dans des couvertures et tout ça. Je me rappelle que quand nous sommes approchés de la ville polonaise où on habitait, qu'une cousine, ou je ne sais pas qui c'était, est venue nous rencontrer. Et elle apportait des bolets de viande. Parce que pendant ce voyage, on n'avait presque rien à manger. Pendant 3 mois qu'on voyageait. Alors elle m'en a donné une boulette trop grande que je suis presque morte, étouffée pour cette viande. Parce que tellement je voulais la manger tout un coup.
Lass uns hier.
d'être une petite fille juive en Pologne avant, dans les années 20
Dans les années 20, je ne me rappelle pas beaucoup. Mais enfin, je ne sais pas pour quelle raison, en face où j'habitais, avec mon frère, parce que mon père est mort, alors mon frère qui est venu pour l'enterrement de son père et de mon père, je ne sais pas pour quelle raison, il m'a pris, mais j'étais toute petite fille, je ne me rappelle même pas ça, on m'a raconté ça, vous comprenez? Et je suis restée, parce que ma mère est partie un peu chez ses frères, chez ses sœurs, un peu voyager, et les deux étaient déjà mariés, deux fils, alors je suis restée avec mon frère, toujours. Et j'ai commencé à aller à l'école que j'étais un peu déjà trop âgée pour, disons, une petite école comme d'habitude on commence. Et alors on m'a poussée dans l'école moyenne, c'était le gymnasium alors. Je suis entrée, j'ai fait l'examen, je ne sais pas comment. Je parlais qu'une langue, ni le polonais ni le yiddish. Je parlais mal yiddish et mal polonais. Et je suis passée dans cette école, dans ce gymnasium. Et je me suis tellement pris pour cette importance que j'étais dans cette école, que j'étais une très bonne élève.
Est-ce que pendant vos études, jusqu'à la maturité, vous avez senti un antisémitisme ?
Oui, oui, oui. J'ai senti, j'avais beaucoup d'amis qui ne pouvaient pas entrer dans cette école où j'étais, que je ne sais pas pourquoi. Et j'ai été, je ne sais pas, je n'avais pas de spécial. Il semble que même l'examen de passage, je n'étais pas trop brillante. Mais on m'a quand même laissé passer.
Est-ce que les professeurs faisaient des différences entre vous et les autres ?
Non, pas tout, disons. Quelques-uns, mais pas tout, non. À l'école, disons, j'étais très bien reçue. J'étais bonne élève d'abord. Et le professeur m'aimait assez. Alors, bien sûr qu'on sentait que, parce que la classe était des grandes classes, 50, 45, comme ça, où on était 4 ou 5, je ne me rappelle pas exactement. Alors, avant, parce que c'était une école alors, que c'était obligatoire la religion. On donnait des notes pour la religion. Alors, au début, nous restions à la classe. Mais après, les prêtres ont demandé que nous, on sort. Alors, on se promenait comme ça. Alors, après, la directrice a pensé que c'était pas bien qu'on se promenait dans les couloirs. Alors, on nous a trouvé une petite place où, pendant la lecture des religion, nous, on était là à faire rien, à lire, à n'importe quoi. Mais on l'a trouvé, alors, je l'ai trouvé normal, puisque j'étais habituée à ça.
Vous avez passé votre baccalauréat en 1930,
oui.
Et là, alors votre famille a décidé que c'était vous qui alliez faire des études.
Et là, quand je préparais la maturité, j'ai posé le problème, qu'est-ce que je vais faire après? Alors, on a pensé que peut-être je vais entrer, mes frères pensaient alors que peut-être ensemble, ils pourront acheter une pharmacie pour moi. Et comme ça, je sortirai de cette ghetto, de tout ça. Vous comprenez?
Vous avez fait votre maturité en 1930. À l'époque, les filles n'étudiaient pas tellement.
Non, non. Mais justement, je vous ai dit, surtout pour les juifs, ils ont fait énormément de sacrifices, tout le monde, ce qu'ils pouvaient, disons, pour leurs fils ou leurs, quelquefois les filles, pas souvent, ben, surtout les fils, comme par exemple mon mari, sortir du ghetto est l'unique moyen de sortir de ce ghetto, c'était les études. Alors, on a cherché de me faire entrer à Varsovie, la plus grande université en Pologne, hein, où deux mes frères, tous les deux mariés, habitaient. Et ils avaient une typographie, donc ils connaissaient beaucoup de monde, parce que même à l'université. Alors, ils ont pensé qu'ils vont me faire entrer, mais ce n'était pas possible. On m'a renvoyé.
On vous a donné les raisons de votre renvoi?
Non, rien. Il y avait la liste qui était à Russie et c'était pas moi. Rien, seulement rien. Alors, on a décidé que j'aille à Vilno. Vous savez, c'est maintenant Lituanie. Maintenant, c'est Russie, République russe. Alors, je suis allée à Vilno. Et là, le même échec. Alors, ma famille avait pensé qu'il faut aller à l'étranger. Alors, il y avait la France, la Belgique, l'Italie, le Prague, Tchécoslovaquie, qui c'était le plus proche. Mais ça coûtait beaucoup d'argent. Vous savez, il fallait payer l'université et le voyage même. Et après, rester là, il fallait quand même payer. Alors, tous les frères, les trois qui sont restés, ont décidé que chacun donnera une partie d'argent. Et on m'a envoyé. Je suis arrivée à Prague toute seule. Je ne savais pas parler le tchèque du tout. Je savais juste bien le polonais.
Ça, c'était en 1932.
32. Et pourquoi j'ai choisi la pharmacie? Parce que j'avais un ami dans une autre ville qui, eux, ils avaient une pharmacie. Pour Prague, il fallait avoir déjà une année des pratiques dans une pharmacie. Et c'est lui qui a demandé sa mère, je ne sais pas qui c'était, de m'accepter pour cette année que je suis allée là. Comprenez? Et j'ai fait cette année. Donc j'avais ce diplôme déjà, que j'ai fait une année de pharmacie.
Vous aviez envie d'étudier?
Oui, oui. Je savais, comme tous les filles juives et les garçons juifs, qu'il n'y a pas autre solution pour nous si nous ne voulons pas devenir un petit marchand de sucre ou de quoi, ou rester dans un magasin à vendre, s'il n'y avait que cette solution. Faire des vraies études. Tchèque assez vite, parce que quand même c'est une langue slave, n'est-ce pas? Seulement, il n'y a pas beaucoup de voyelles. Disons, pour vous donner un exemple, disons, jeudi, aujourd'hui, en polonais, on dit czwartek, mais en tchèque, on dit czwartek, sans les voyelles, vous savez? Mais presque tout de suite après.
À Prague, vous avez étudié, mais vous êtes aussi tombée amoureuse.
Et j'ai connu mon mari en manière très, très compliquée. Et mon ami, c'est là que je vous ai dit, devait faire son dernier examen. S'il l'a raté, il aurait dû répéter une année. Donc c'était très important pour lui. Alors, je lui ai dit que quand il finit, qu'il vient chez moi. Il n'y avait pas de téléphone. Alors, mais il n'est pas venu. Alors, j'étais un peu inquiète. Alors, je suis allée chez lui. Et quand je suis arrivée chez lui, mon mari était assis, qui étudiait, qui habitait, parce qu'alors, On habitait en deux dans une chambre. Ça coûtait trop cher pour une seule. Moi aussi, j'habitais avec une fille. Parce qu'à Prague, une chambre coûtait trop cher. Alors, voilà, on a fait connaissance. Et comme ça. C'est 50 ans.
Comment vous vous débrouillez pour manger? Vous aviez assez d'argent pour vous acheter à manger?
Oui, on m'a envoyé, mes frères, ils m'ont envoyé très régulièrement cet argent. Que j'étais tout de suite très consciente que je ne peux pas demander plus, qu'avec ça, je dois faire tout. La première fois dans ma vie, je vis habillée différemment. Des jolies robes, des jolies chaussures, des choses comme ça que je n'ai jamais eues. Parce qu'à l'école, on portait une robe grise et c'est tout. Alors, si je voulais m'acheter quelque chose, par exemple, je vis un jour une paire de chaussures de crocodile. Ça me fait rire. Alors, mais ça coûtait terriblement cher. Alors, pendant 2 mois, je mangeais à midi une saucisse, cette grosse saucisse, ça s'appelle... comment ça s'appelle, cette grosse saucisse? Cervella. Le cervella avec un gros morceau de pain. C'était mon déjeuner. Hein? Et le dîner, à peu près la même chose. Et l'argent que j'ai mis de côté... Je me suis acheté ces chaussures que je ne pouvais pas porter parce qu'elles me faisaient mal. Là aussi, c'était ça que vous payez pour le laboratoire, qu'il fallait payer. Pour le laboratoire, ça pour la chambre, que c'était cher, que j'habitais en deux. Et le reste, avec le reste, je pouvais au manger, disons, décemment, c'est-à-dire dans le restaurant de l'université, et pour manger, comme je vous ai dit, un cervelas avec un morceau de pain, presque pour toute la journée.
Il y avait d'autres filles qui étudiaient avec vous?
Oui, il y avait aussi de la Pologne, de la Lituanie, oui, il y avait, mais c'était souvent des filles plus riches que moi, disons, hein? Parce que ça coûtait cher. Mais moi, j'avais ces 3 frères qui ont décidé de m'envoyer. Et donc. Mais quand à Prague, ça commençait déjà à sentir un antisémitisme comme en Allemagne, vous comprenez? C'est commencé, par exemple, sur notre carnet de l'université, ils ont marqué que j'étais étrangère, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas marqué juif, mais étrangère. Et c'était presque tous des juifs, là, qui sont venus, vous comprenez? Et après, les laboratoires étaient faits pour 2, mais nous, on était 4 ou 6, séparément. Les Tchèques étaient séparés, et nous, séparément, vous comprenez? On sentait une l'air que ça va venir encore quelque chose de pire. Alors, il y avait des autres filles qui disaient qu'en Italie, ça coûte moins cher, et puisqu'il y avait beaucoup d'universités en Italie. Et Mussolini voulait montrer qu'ils sont peuplés, toutes les universités, que ce n'était pas vrai. Alors, on acceptait tous les étrangers, on reconnaissait tous les examens qu'ils ont faits ailleurs, et la taxe universitaire pour celle qui arrivait de l'étranger, c'était la moitié seulement. Vous comprenez? Alors, on est arrivé, les filles là, filles et garçons, disaient que Florence, c'est très bien, c'est joli comme ville et tout, et c'est une petite université qu'on accepte très facilement. J'ai dit à mon frère, tu sais, je crois que je vais aller à Florence, en Italie, à finir les études. Et il m'a dit, je me rappelle toujours, c'est dommage que tu n'aies pas pensé d'aller sur la ligne parce que tu iras.
Anche per quest'anno, ragazze, ci han pregato. Con tutte le sue chiacchiere in risaia ci han mandato. E noi povere donne ci tocca lavorare per mantenere i ricchi al suo paese passeggiare. E noi povere donne ci tocca lavorare per mantenere i ricchi al suo paese passeggiare. Ci sono dei padroni che sono un po' incoscienti, comandano, bestemmiano con la bava fra i denti, dicendo queste donne il lavoro non lo son far, dovrebbero far presto come il treno camminare. Dicendo queste donne il lavoro non lo son far, dovrebbero far presto come il treno camminare. Se si parla del trapianto le è una cosa da spavento, loro vogliono le file dritte anche se siamo in 200. Se c'è una povera donna che la si sente mal, vanno ancora lentamente per portarla all'ospedale. Se c'è una povera donna che la si sente mal, vanno ancora lentamente per portarla all'ospedale. E tutto quel sudore giù prendiamo saranno poi le lacrime dei figli.
Vous êtes sur 93.8 MHz. Nous écoutons dans Histoire d'une ville, l'histoire de Eugenia B., juive polonaise, née en 1913, qui part étudier à Prague et maintenant elle arrive en Italie.
Gride hanno mamma, vogliamo da mangiare, lotteremo allora per lavoro e libertà. C'è poi un'altra cosa da fare ben presente, con pane, riso e vitto non si capisce niente. E riso è sempre riso, con acqua in quantità, e c'è il va al governo con i signori a consolare. E riso è sempre riso, con acqua in quantità, e c'è il va al governo con i signori a consolare.
Alors, je suis allée à Florence. J'ai eu des difficultés de voir encore le passeport polonais parce qu'il faisait de terriblement de difficultés pour donner le passeport. Vous savez, en Pologne, pour voir le passeport, pour sortir, il fallait s'inscrire d'abord à l'université, avoir le refus de l'université à Varsovie, quand vous donnez le passeport. Mais toujours, ça durait longtemps.
Mais vous n'êtes pas partie toute seule à Florence. Là, vous êtes partie
toute
avec
seule,
toute votre mari.
Ah non, lui, on n'était pas encore mari d'abord. Non, non, lui, non. Alors, j'ai eu mon passeport que c'était presque Noël. Donc, c'était, j'avais déjà perdu un semestre, n'est-ce pas? Mais je suis arrivée, je me rappelle exactement, le 22 décembre.
Là, on était en quelle année?
On était en 33. Alors, naturellement, je suis arrivée et il fallait courir le même jour à l'université pour s'inscrire.
Là, quand vous êtes arrivée, vous aviez des adresses ou vous êtes débrouillée
j'avais,
comment?
Non, j'avais une amie là. Cette amie qui habitait avec moi à Prague, elle était beaucoup plus riche que moi. Elle est arrivée à temps, disons, en septembre. Alors, je lui ai dit de m'inscrire, mais elle n'a pas fait, puisqu'elle n'avait pas les documents. Alors, on a commencé à courir pour voir si on m'accepte encore à ce moment. Et on a dit que c'était trop tard. Alors, j'étais désespérée, parce que je pensais que je vais perdre encore une demi-année. Et ici, payant ça et ça, donc c'était trop cher pour moi. Alors je suis allée à une autre ville, pas loin de là, toute seule. je ne savais pas un mot italien, juste bonjour. J'ai dit à Florence, je ne pouvais pas m'inscrire tout de suite. Alors je suis allée là, à l'autre ville. Là non plus, je suis revenue quand même à Florence, toute seule toujours. Mais arrangeant, je ne sais pas comment. Le conducteur m'a demandé les billets, mais moi je ne comprenais rien. Alors il a pris mon sac, il l'a ouvert, il cherchait, il trouvait les billets. Et hop.
Parce que toujours, c'était peu coutumier de voir des femmes voyager toutes seules.
Oui, c'est vrai. Mais c'était mon cas. C'était mon cas. Alors, je suis revenue à Florence et j'ai dit à cette amie, écoute, ce sera une tragédie si je ne peux pas entrer tout de suite. Alors, elle est allée à l'université et je ne sais pas avec qui a parlé et on m'a acceptée. Année où j'habitais, la belle-sœur de cette dame que j'habite, où j'habitais, allait au bord de la mer. Et elle m'a dit si elle avait une fillette de 5 ans, que si je voulais venir au père, et elle me donnerait à manger et à dormir. Et j'ai accepté tout de suite. Alors je suis allée avec cette famille au bord de la mer. C'était la première fois que j'ai vu la mer dans ma vie. C'était quelque chose, je ne peux pas vous expliquer. Ces vagues qui venaient comme ça, que c'était tellement beau et tout ça. Je ne savais pas nager non plus. Enfin, je m'occupais beaucoup avec cette fille, qu'elle m'a adorée après. Mais elle disait à sa mère que j'étais très gentille, mais que je suis trop stupide. Parce que je demande à elle, la table, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est l'arbre? Qu'est-ce que c'est ça? Elle me demande à moi, qu'est-ce qu'il y a un arbre? Mais elle est trop stupide. Mais elle est gentille et elle est amusante, elle me disait. Alors, il faut dire que l'italien, j'ai appris là.
C'est passé parce que bon, vous avez rapidement appris la langue.
Oui.
Vous aviez des contacts avec les Italiens. Vous étiez bien acceptée en tant que juive polonaise.
Très bien, très bien. Alors là, au contraire, il n'y avait pas beaucoup de filles parce qu'à ce moment-là, les filles s'étaient allées à l'université, mais faisaient littérature, histoire, tout ça, choses comme ça. Mais travail pratique, comme ça, pharmacie, médecin, il n'y avait pas beaucoup de filles. Mais il y avait quand même 3-4. Les filles m'aidaient beaucoup. Et ça, on dit comme ça, ça, on dit comme ça. Alors, ils étaient très gentils avec moi.
Mais il y avait une grande différence entre vous. Vous avez quitté la Pologne pour aller en Tchécoslovaquie. Vous étiez vraiment très indépendante. Puis elle vivait une chose tout à fait différente.
Ah oui. Ah oui, ils n'avaient pas le droit, disons, de sortir comme ça, pas quand même. Mais Et par exemple, il y avait beaucoup de filles qui venaient à la leçon et après, partaient. Alors l'autre disait, elle a un fiancé, vous savez. Alors elle séchait les cours et allait avec le fiancé. Mais naturellement, il disait, me demandait si quelqu'un habite avec moi. J'ai dit, oui, j'ai occupé une seule chambre chez quelqu'un, non ? Mais chez quelqu'un qui n'a rien à faire avec moi. Alors, il me disait, mes parents, qu'est-ce qu'ils disent ? C'était trop difficile à expliquer avec mes très mots italiens que je savais. Mais ils avaient conclu que je suis étrangère et donc différente.
La sua canzone sembra d'un esiliato, cielo di stelle, cielo colore del mare, tu sei lo stesso cielo del mio casolare, portami in sogno verso la patria mia. Portale un cuore che muore di nostalgia.
À septembre est arrivé mon mari, 10 mois après moi. Moi, je parlais déjà bien l'italien, presque.
Vous aviez tout quand même arrangé avant, c'est pas un hasard s'il est, hasard s'il est venu.
Et il est venu, il voulait venir tout de suite, parce que aussi, il était à Prague aussi. Mais à Prague, on sentait que l'air n'était pas plus bon pour les Juifs. Alors, tandis qu'en Italie, c'était très bien. On nous acceptait vraiment très, très, très cordialement. Alors, je lui ai écrit tout ça, naturellement, non ? Mais il n'avait pas d'argent. Ses parents avaient un moment des difficultés. Alors, il ne pouvait pas venir puisqu'il n'avait pas d'argent. Mais à la fin mois de septembre, ses parents probablement ont pu lui donner l'argent pour partir, et il est arrivé. Il est arrivé à Florence, et j'avais demandé à la dame où j'habitais qu'elle me donne une chambre pour lui, non ? Mais après, je ne sais pas comment j'ai eu le courage de lui expliquer qu'on n'a pas d'argent de payer 2 chambres. Que nous allons habiter ensemble. Et voilà, c'est là que je vous ai dit qu'après...
Alors justement, vous êtes arrivée toute seule, mais ce n'était pas votre mari à l'époque, c'était votre amoureux,
non,
tout simplement.
Oui. On a vécu plusieurs années comme ça.
Alors, en Italie...
Ah, c'était mal vu. Et tout le monde, la première chose, me demandait pourquoi je ne me mariais pas. Puisque nous aimons et nous restons toutes ensemble, pourquoi nous ne marions pas ?
Alors pourquoi ?
Pour une simple raison que pour se marier même, il fallait un peu d'argent toujours, qu'on n'avait pas lui non plus.
Ça c'était vraiment, à l'époque c'était vraiment incroyable, vous n'étiez pas mariée, vous étiez étrangère.
C'était une demoiselle, mais elle avait 55 ans. Quand je lui dis que je vais habiter avec lui, elle s'attrapait comme ça. Elle a dit, qu'est-ce que vont dire les voisins, son frère à elle et tout ça. Mais elle a quand même, je l'ai quand même convaincue, comme vous voyez.
Seems absurd, I know.
On s'arrangeait un peu pour vous dire que de temps en temps j'allais acheter un endroit tous les foies des porcs ou des génisses coûtaient moins cher. Alors avec ça, je faisais pendant 2 jours à manger. Vous savez, on achetait des petits fromages des triangulaires, petits fromages comme ça, et avec ça, on mangeait 2 jours, vous savez, on était très, très regardés chaque sou. Vous savez, une soirée, j'ai marché avec mon mari, j'avais une lire. Et je ne sais pas, elle est tombée par terre, je ne la retrouvais pas. Alors je cherchais, et demain matin à 6h, je suis sorti pour retrouver cette lyre, parce que c'était quelque chose qu'on pouvait déjà acheter, quelque chose. On était très courte, parce que lui aussi, il recevait un peu d'argent de la maison, mais très peu.
Quand vous étiez seule en Italie pendant quand même une année presque, dix mois, il n'y a pas des moments où vous aviez envie de tout laisser tomber et dire « Ah, mais moi j'arrête, pourquoi j'étudie ?»
Non, j'étais comme ça, toujours, non, je vais aller, je ne peux pas perdre un examen parce que ça durera trop longtemps. Et je dois trouver encore des amis ici pour me. Après, que peut-être que je vais travailler, que j'ai trouvé.
Mais par exemple, il n'y a pas un moment où vous avez dit, oh, j'aimerais bien rentrer, retrouver ma famille.
Oui, j'avais quelquefois, la nuit surtout. Oui, mais j'étais tellement préparée que je dois, que mes frères font vraiment un grand sacrifice. Un de mes frères a arrêté de fumer pour me donner ces quelques argent en plus. Vous comprenez? Que je ne peux pas les décevoir. Et je dois finir un moment qu'on doit finir. Je ne peux pas me permettre de passer quelques mois en plus. Vous comprenez? C'était une motivation seulement, je crois, qui a su qu'il n'y a pas d'autre ici, il n'y a pas d'autre ici pour moi, qu'on peut le faire. Vous savez, si vous pouvez penser que je reviens à la maison et je reste à la maison, de quelque manière, on ferait quelque chose. Mais moi, je savais que je ne peux pas le faire parce que mes frères font trop de sacrifices pour moi pour finir l'université et à temps. Pas 6 mois plus, non, il n'y a pas d'argent pour ça, vous comprenez? Alors, je me levais à 4h le matin, à 5h le matin pour étudier. Et je ne laissais jamais un cours. Les professeurs me voyaient toujours à l'université, que je devais faire des botaniques, donc j'étais là dans le jardin botanique à chercher les noms, mais qu'est-ce que ça donne en pharmacie et tout ça. On me voyait là, vous comprenez?
Parce que c'est vrai que vous étiez loin de votre famille, mais en plus, vous faisiez quelque chose de tellement différent de la plupart des autres femmes de l'époque. Vous n'avez pas l'impression que plutôt vous auriez dû vous marier avec votre mari, que lui finisse ses études et avoir tout simplement des enfants et s'occuper d'eux, comme c'était le cas de la plupart des femmes quand
non,
même dans les années 30.
Pas moi. J'étais vraiment très motivée parce que j'ai dit non, je vais finir et j'irai dans une pharmacie à travailler.
Parce qu'à ce niveau-là, vous vous sentiez, vous avez pu vous dire, oui, non, mais c'est pas très normal ce que j'ai envie de faire, je suis un peu égoïste.
Non, j'étais pas égoïste et j'étais très motivée. D'abord, peut-être que je n'ai pas vécu dans la vraie famille avec maman et papa. Non, j'ai vécu avec un frère, hein, qui était très bon pour moi, ma belle-sœur aussi. Et les deux enfants, c'était ma petite sœur et mon petit frère. Mais quand même, je savais, moi, que je suis pas, c'est pas ma maison, celle-là. Que je n'ai plus de maison, parce que ma mère voyageait un peu chez un frère, chez sa sœur et tout ça. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, comme à l'école même, que je suis entrée, que je savais rien, mais j'avais tellement... J'étais tellement motivée que je dois passer, je ne peux pas répéter d'école, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, parce que moi, je ne suis pas, disons, d'une famille normale, vous comprenez? Je le comprenais tout de suite, je ne sais pas pourquoi, puisque tout le monde était très bon pour moi. Moi, je le savais.
Vous êtes sur 93.8 MHz. Nous écoutons dans Histoire d'une ville, l'histoire de Eugenia B., juive, née en Pologne en 1913 et partie pour pouvoir étudier avant en Tchécoslovaquie, ensuite en Italie. Mais une question se pose, comment les jeunes femmes à l'époque utilisaient la contraception?
Il n'y avait pas aucune contraception. Oh, il fallait, je ne sais pas, s'arranger autrement. Mais non, c'était toujours la grossesse qui était fertile comme j'étais. J'avais déjà eu plusieurs fois que j'avais fait l'interruption de grossesse. 3 fois, je crois.
Mais c'était volontaire, vous l'aviez décidé vous-même.
Oui.
Mais à l'époque, quand on décidait d'avorter, comment ça se passait?
Oh, c'était pas facile, mais on trouvait toujours en Italie. On trouvait, mais il faut payer. Alors là, c'était le problème, payer. Il fallait des jours vraiment manger un petit fromage comme ça, moi et mon mari ensemble, pour déjeuner. Parce que l'argent, il fallait l'épargner pour faire ça.
Comment vous avez fait pour rentrer en contact avec quelqu'un qui allait faire l'avortement?
Oui, vous savez, entre les étudiantes, ça, il y avait toujours quelques noms. J'allais, j'ai commencé à parler.
Mais c'était quand même c'était tellement sommaire, ça devait être très difficile.
C'était douloureux, terriblement douloureux, parce qu'ils avaient... On ne donnait pas rien, simplement comme ça, à le faire accru. C'était très douloureux. Mais on se portait, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y avait rien à faire autre.